Voici les démêlés de Robert Pilote.
Mardi, c'est Alain Soulard. Bonjour Alain.
Salut Robert.
T'as fait, t'es revenu dans ton jeune temps quand t'étais un manifestant fringant, que tu réclamais des droits, plus de droits et de liberté pour le Québec. T'es allé encourager les professeurs et les étudiants.
Tout à fait. Et c'est important de comprendre l'enjeu derrière ce lockout. C'est le deuxième en Mauricie et les deux sont absolument abominables, quoique différents. L'Université du Québec à Trois-Rivières, ça appartient pas à des intérêts étrangers, ça nous appartient. Alors, la première chose qu'on pourrait comprendre, c'est pourquoi lockouter à la fin d'une session, au moment où, pour ceux qui connaissent pas l'horaire d'un étudiant d'université, là, au début mai comme on est, la session d'hiver se termine, la session d'été va bientôt commencer. Ceux qui sont à la maîtrise ont besoin d'accompagnement pour soumettre leur thèse. Au doctorat, c'est pareil. Et tout ça est maintenant out parce que M. McMahon a décidé de fermer la porte à la négo. C'est complètement infernal. On peut penser que, bon, les profs, évidemment, les profs, pas les chargés de cours, les profs, ils pourraient donner plus de cours. Mais là, nos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais un prof d'université, ça ne fait pas qu'enseigner. Ça cherche. Ça recherche. Ça fait des enquêtes. Ça fait du travail d'animation pour essayer de faire en sorte que ce qu'on apprend, ça soit transmissible. Et ça, c'est malheureux, mais je pense que la décision que le conseil d'administration de l'UQTR a prise a été absolument, et pas juste par moi aujourd'hui, là, même par la ministre, Hélène David, qui a dit c'est absolument aberrant. Alors, quand la ministre de l'enseignement supérieur détruit la décision du CA de son université, ça va pas bien.
Certains commentateurs, puis j'en suis, puis je sais que François Vigean en a parlé avec Catherine Godreau. Est-ce qu'il n'y a pas là quand même une espèce d'équilibre dans les moyens de pression qui doit s'exercer nécessairement? C'est-à-dire que le syndicat était sur le point de demander une vingtaine de journées de grève et puis éventuellement exercer des journées de grève. Est-ce que l'université n'est pas dans son bon droit de dire, ben là, écoutez, c'est pas vous autres qui allez prendre qui allez prendre l'initiative de la négociation, c'est nous autres qui allons demeurer les patrons de l'entreprise?
Alors, si ce raisonnement-là, et là, je remets en question complètement ce que M. Vigean t'a dit et ce que toi, tu peux penser, c'est concentrer le problème actuel sur la relation prof-administration et faire fi complètement des 14 000 étudiants qui sont actuellement sur ce campus, dont un paquet, je pense que c'est autour de 1 000, 1500, qui sont des internationaux. Qu'est-ce que c'est un international? Ben, c'est un étudiant qui vient du Sénégal, qui vient de la Côte d'Ivoire, qui vient d'Algérie et qui a eu une bourse pour étudier ici et qui, là, pourra pas continuer de recevoir ses émoluments parce qu'il y a un lockout, pourra pas finir sa thèse de maîtrise ou de doctorat parce qu'il y a un lockout. Là, si on veut négocier avec les profs, là, oui, je peux comprendre qu'on est mieux de jeter les cartes à terre tout de suite par un lockout que d'attendre la grève. Mais c'est réduire la dimension d'une université à un conflit patron-CA. Et c'est pas ça. Le prof que je suis, l'ancien président de syndicat que je suis, peut en témoigner de façon vive.
Ben écoute, on te sent, là. Écoute, toi, ça vient te chercher dans les tripes, cette histoire-là. La bonne nouvelle, c'est que ça négocie. Et puis moi, je pense que ça pourrait se régler cette semaine. Je l'espère profondément.
Ben je l'espère pas juste pour mes collègues enseignants, je l'espère aussi pour les étudiants, surtout parce que actuellement à l'UQTR, j'en ai peut-être une centaine qui sont de mes anciens, qui sont là, qui étaient là hier à la manifestation en passant, pour dire, écoutez, pourquoi vous n'avez pas considéré la présence de cette cohorte ou de ces cohortes d'étudiants-là, et pourquoi ne pas avoir aussi pris en considération que la réputation de l'UQTR, c'est quoi la réputation de l'UQTR? Ben, quand ça a été fondé, il y a 50 ans, moi, je sortais du séminaire, puis je m'en allais à l'université. Mais bon, l'Université Laval, l'Université de Montréal, McGill, ça pognait plus, parce que c'était gros, c'était hot. Là, l'Université du Québec à Trois-Rivières a commencé à faire ses marques et à développer son expertise, et surtout à se faire reconnaître comme une université proche, humaine, favorable à un accompagnement plus facile. Et là, paf, on vient de détruire cette réputation-là au moment où on fêtait son 50e. C'est pas une bonne idée.
Peux-tu te parler du départ de Julie? Es-tu surpris de ça?
Non, pas du tout. En fait, la surprise, c'est peut-être de voir qu'elle l'a attendu jusqu'à hier pour officiellement le déclarer. On peut aussi comprendre, parce qu'il y avait, j'ai entendu à un moment donné sur les ondes, je ne me souviens plus de quelle radio, qu'il y avait son frère, bien, il y a toujours son frère, qui serait possiblement un candidat de la CAQ à Trois-Rivières. Et donc, M. Boulet avait dit « Non, pas maintenant, je suis pas prêt, on réfléchit. » Et l'association que je fais, c'est que non, M. Boulet voulait pas annoncer sa candidature au moment où sa sœur était encore en réflexion. Et là, peut-être que les sondages jouent un rôle. Peut-être que, bon, elle affirmait hier qu'elle est fatiguée, qu'elle n'a plus l'énergie pour combattre. On peut comprendre. Sauf que combattre dans l'opposition, ça coûte pas mal moins cher que combattre au pouvoir. Parce qu'un député de l'opposition, ça travaille. On le sait, là. Vous demanderez à Robert Aubin, même s'il est député de l'opposition à Ottawa, s'il travaille pas. Non, il travaille. Mais les responsabilités sont moindres et actuellement, avec toute la vague de changements qui flotte dans l'air, ben, Mme Boulay a peut-être pensé que ce serait pas nécessairement facile de gagner et elle a décidé de quitter avant que le navire coule.
Oui, effectivement. Petit mot en terminant sur la presse. Écoute, ça aussi, ça en est une solide aujourd'hui. La presse, véritable institution dans le monde des communications au Québec, va devenir OSBL, ton commentaire?
Et bien là, je viens de l'apprendre en arrivant tantôt parce que j'étais à l'extérieur, j'arrive, et là, je vois cette manchette-là passer. Jessica va vendre la presse. C'est
ouais.
Ça?
Oui.
Ben, ça va devenir une OSBL.
Oui, oui. Organisation sans but lucratif. Ils vont déposer dans un compte de banque 50 millions. Et puis, par la suite, organisez-vous avec vos troubles. Allez chercher du financement à Québec, à Ottawa, ou allez chercher du financement privé. D'autres, on coupe les liens pour de bon.
Ben, à vif, comme ça, ma première réaction, c'est une réaction, je te dirais pas négative, mais en même temps pessimiste, au sens où si Jessica vend la presse, c'est parce que les médias écrits sont en péril. Et ça, on le sait, là, ça fait presque un an qu'on demande à Ottawa, à Québec, mais à Ottawa surtout, d'aider la presse écrite parce que ça va pas bien, les journaux ferment un après l'autre, et ça, lui-là, ferme pas. Mais en étant légué de la façon dont il l'est, c'est clair qu'on aura peut-être moins le côté magnificent de ce groupe qui contrôlait, qui contrôle la presse actuellement, mais qui à l'époque contrôlait bon, le Nouvelliste, la Tribune et tout le reste. C'est tant mieux si c'était une OSBL, mais en même temps, ce que je comprends derrière ça, c'est que ça doit plus être bien ben rentable d'être dans le monde des communications, écrites particulièrement. Est-ce qu'à la radio, c'est pareil? Ben, tu pourras peut-être m'en parler ou demander à Daniel de nous en parler.
Non, non, ça va bien la radio. Honnêtement, c'est un des médias qui passe bien ça, son époque. La télé, c'est pas évident avec la multiplication des canaux, des plateformes, avec les YouTube de ce monde aujourd'hui.
Et les Netflix.
Netflix, effectivement. Des contenus que l'on peut trouver, mon Dieu, de façon illimitée maintenant partout sur la planète. Mais pour ce qui est des radios, c'est une espèce de média de proximité qui accompagne les gens dans les voitures ou à la maison. Non, ça va bien, je te dirais, pour les radios. Pour ce qui est des médias écrits, ben, je pense que c'est un signe des temps. Ils ont tenté de faire le flip numérique entièrement la presse et je pense que le flip est devenu un flop.
C'est à la fois, bon, décevant, mais en même temps aussi, je dirais, un peu questionnant dans le sens suivant. On le sait, en tout cas, la plupart d'entre nous le savons, les médias, leur rôle, que ce soit les écrits, les télés ou les radios, c'est d'amener l'information et de passer les messages qui nous permettent de se faire une opinion et d'être certain qu'au moment où, il faudrait le demander à Marie-Maude Denis et à Patrick Lagacé, au moment où ces gens-là sont contestés et n'ont plus les moyens de faire ce qu'on appelle du journalisme d'enquête, c'est une claque à la démocratie, je trouve, qui est en train de se sacrer. Et c'est pas, en tout cas, j'ai hâte qu'il y ait de meilleures nouvelles que celle-là.
Oui, et puis, petite dernière question liée à ce dossier-là. Financé par le fédéral, le provincial ou ailleurs, un média comme la presse, peut-il garder son indépendance?
Ben, et on se posait, puis on se l'est posé même quand j'enseignais, c'était la question, est-ce que si ça appartient à Desmarais, il va avoir derrière ce qui est publié dans ce journal-là une intention? C'était à l'époque la même question qu'on se posait, si c'est au devoir, ça va-tu être contrôlé par les gens qui contrôlent le devoir? Est-ce que ceux qui payent pour qu'un journal ou qu'une radio, peu importe, soit en onde, doivent imposer à travers leur propriété des intentions, des idéologies? Ben, évidemment, ma réponse, c'est non, ça devrait pas. Mais ma réponse, c'est pas ce que je vois. Si tu dois avoir écouté des fois Fox News,
oui,
et on a l'impression que Fox News appartient à Donald Trump.
Oui.
Et on a l'impression que CNN appartient aux démocrates. Et ça, c'est... Ben, c'est, un coup qu'on le sait, ben on le sait, puis on essaye de pondérer les deux approches, mais en même temps, il faudrait s'assurer, mais comment on le fait? Bonne question. Que les gens qui travaillent pour une entreprise ne soient pas les porte-parole officiels de cette entreprise-là ou de ce propriétaire-là, uniquement parce que c'est lui ou eux qui payent leur salaire. Moi, je travaillais au Collège La Flèche pour les Ursulines. Je ne suis pas devenu nécessairement un apôtre de la religion catholique. Je pouvais être pas athée, là, mais ne pas avoir des fondements religieux et continuer de travailler. Et j'ai travaillé là 40 ans.
Toujours un plaisir de t'entendre. À bientôt. Bonne semaine et continue de manifester. Vous allez l'avoir.
Oh, oui.
Vous allez gagner votre combat. Salut.
J'espère. Merci.
À bientôt. Alain Soulard. À notre démêlé du mardi, une courte pause. On va faire un petit saut à la Cité de l'énergie qui annonce un nouveau partenaire aujourd'hui, parlant de médias d'importance québécois qui s'associent à la Cité de l'énergie. Et l'autre affaire, il y avait le bilan de ce qui s'est passé sur les routes, les accidents, puis les blessés. Puis est-ce que la Mauricie, on s'en tire bien? Vous le saurez après le bulletin de nouvelles.